Alors bonjour, mesdames et messieurs. J'ai encore le plaisir de continuer avec ma série de conférences sur la guerre civile et le corps de l'éphèbe en Grèce ancienne. Et maintenant, je parlerai dans la troisième conférence sur la jeunesse grecque, la paideia, l'éducation en grec ancienne, et le gymnase. Lors de la deuxième conférence, j'ai essayé de montrer que la thèse fondamentale de Platon concernant la prévention et la sortie d'une stasis, guerre interne, représentait une solution tout à fait particulière, mais profondément ancrée dans l'imaginaire grec, avec des parallèles au-delà de sa propre époque. Ceci se trouve surtout dans l'évaluation du problème et donc dans l'analyse détaillée et dans la description de ce avec quoi on avait affaire. Le lion de Platon faisait concrètement référence aux représentants d'une jeunesse imbue au plus haut point d'honneur et sensiblement maladive, montrant peu de maîtrise de soi et étant donc colérique. En utilisant la méthode traditionnelle comme les moyens de la réflexion philosophique, on avait mis au point des idées et des pratiques claires de socialisation. Celles-ci concernaient une éducation et une formation tout d'abord physique, basée sur l'exercice, mais aussi sur l'harmonie, l'habileté et la prestance. Leur idéal pourrait être décrit par le concept Deuexia, littéralement, bon état, bonne tenue, prestance. Enfin, j'ai soulevé la question de la valeur pratique des concepts philosophiques et de l'éducation, pour laquelle j'ai utilisé surtout Platon, Aristote et Polybe. C'est pourquoi nous allons revenir de nouveau à Aristote et à sa philosophie pratique, en particulier à l'éthique à Nicomaque, et à la politique. Le point de départ est la nature des jeunes. Leurs inclinations naturelles particulières doivent être prises en compte. L'éducation doit répondre à leur ferveur. Je cite Aristote. Et en général, ce n'est pas, semble-t-il, au raisonnement que cède la passion, c'est à la contrainte. Il faut donc que le caractère ait déjà une certaine disposition propre à la vertu, chérissant ce qui est noble et ne supportant pas ce qui est honteux. Mais recevoir en partage, dès la jeunesse, une éducation tournée avec rectitude vers la vertu est une chose difficile à imaginer quand on n'en a pas été élevé sous de justes lois. Car vivre dans la tempérance, sophronos, et la constance, kartérikos, n'a rien d'agréable pour la plupart des hommes, surtout quand ils sont jeunes. Aussi convient-il de régler, au moyen de loi, la façon de les élever, ainsi que leur genre de vie qui cessera d'être pénible en devenant habituel. On ne saura donc renoncer à la coercition et à la pression, à l'habillage, raison pour laquelle Aristote fait intervenir très fermement l'autorité de la loi. Il est surtout nécessaire d'intervenir auprès des jeunes hommes qui ont des difficultés à mener une vie sage et contrôlée. Certes, dans l'éducation des hommes, la disposition naturelle, la physis, et l'instruction, la didaké, sont importantes en elles-mêmes, mais ne sont pas suffisantes. On a aussi besoin de l'accoutumance, de l'éthos, c'est-à-dire de l'exercice, de l'entraînement, de la mêlété. Celle-ci prépare l'esprit à l'éducation, de la même manière qu'un champ doit être préparé avant l'ensemencement. Précisément, dans ce contexte, interviennent certaines activités et occupations epitédoimata, ou mieux, fixées par la loi, parmi lesquelles il y a la musique et la gymnastique, comme chez Platon. La musique et la gymnastique. Ainsi, l'accoutumance sous la forme d'exercice et de gymnastique conduit à une certaine tenue hexis du corps. Et la hexis qui s'appuie sur l'accoutumance, sur l'ethizestae, est dans l'éthique aristotélicienne le fondement du bon usage des passions, des pathés. Ainsi, les hexeis, en pluriel, les hexeis même peuvent être désignés comme des vertus, des aretai, dans l'éthique à Nicomaque. Selon Aristote, il y a accord sur le fait que les exercices sportifs doivent être pratiqués selon les classes d'âge. Pour les enfants et les jeunes, jusqu'à l'adolescence, à l'hébé, des exercices plus faciles doivent être prévus. C'est à partir de la transition vers l'âge adulte et pendant 3 années, selon Aristote, quand il y a aussi des leçons mathémata, que l'on passe à un entraînement dur, à des ponoi, et à une diète stricte, à l'ankophagia. Ces traitements correspondent aux classes d'âge qui jouaient un rôle tellement significatif dans la socialisation chez les Grecs. Ce sont donc les éphèbes, les groupes d'âge qui les précèdent, paides, et qui les suivent, neoi. Chaque cité pouvait fixer de manière différente les détails concrets des niveaux par année et des horaires de cours. Ce qui est crucial, c'est que, de manière générale, le seuil de l'âge adulte, ephébein, était envisagé avec une sensibilité particulière et que l'on a fixé à ce point les principes éducatifs mentionnés ici. Un passage obligé, un locus classicus, pour cette question, est une section des mémorables de Xénophon. On est précisément dans le milieu intellectuel dans lequel l'on discutait en pleine conscience des concepts de l'éducation. On y a affaire avec une figure religieuse qui jouissait d'une vénération particulière dans les gymnases, étant pour ainsi dire le héros des athlètes. Il s'agit de la célèbre histoire d'Héraclès à la croisée des chemins, considérablement enrichie par le soufiste Prodicos de Céos. Le point critique est précisément le passage de l'enfance vers l'âge adulte. Ek paidon eis heben. Les mêmes mots comme chez Aristote, es heben, es hebos. Il est très important, puisque les jeunes gens, les néoïs, sont devenus maîtres d'eux-mêmes, autocratores. Ils peuvent décider par eux-mêmes de la direction à prendre et doivent être responsables de leurs décisions. C'est le point auquel deux voix s'ouvraient à Héraclès, personnifiée par deux femmes, la vertu, arrêtez, et la turpitude, kakia. C'est précisément ici qu'une attention particulière est nécessaire, et on pense aux remarques pertinentes de la rhétorique d'Aristote citée la semaine dernière. Compte tenu de la jeunesse de la personne concernée, parce que les jeunes sont effrénés quand il s'agit de leur corps, tois somasin adunatoi. La physis, c'est-à-dire l'inclinaison naturelle, ne suffit point. Héraclès fut bien pourvu de qualité par ses parents, le dieu Zeus et Alcmène. Mais il s'agit, en fin de compte, d'une décision personnelle, et si le choix porte sur la vertu, donc sur une éducation couronnée de succès et sur une vie réussie, alors on aboutit à l'exploit non seulement pour soi-même, mais aussi, et pas en dernier lieu, pour les autres, pour les amis, pour la police, pour le monde grec en général, la grécité. Compte tenu de la prédisposition du jeune homme, la maîtrise du corps est essentielle pour ce succès. C'est la base de la maîtrise de soi. Le discours de la vertu dont Héraclès fait la réputation dans le passage de Xénophon finit précisément par cette indication. On doit habituer étistéon. Nous nous souvenons de l'éthos d'Aristote. On doit habituer le corps, je cite, « à se soumettre à l'intelligence, gnomer, et l'exercer par les travaux et les sueurs. Gymnasteon sun ponois kai hydroti. » Fin de la citation. Pour cela, il y a des incitations, c'est-à-dire la récompense qui vient après le succès, et surtout la mémoire, la gloire, mnémé. On a là un appel clair à l'ambition dans la compétition et dans la satisfaction de l'agone. Je ne prends pas les concepts didactiques et éducatifs résumés dans cette histoire qui a joui d'une très grande influence comme une recette universelle pour l'organisation des établissements d'enseignement. Je pense cependant qu'il n'était pas seulement un discours intellectuel dans le sens strict du mot, une simple réflexion ludique. Ils ont rendu explicite et ont conceptualisé la connaissance implicite des relations psychosomatiques de la croissance et de la formation de la jeunesse, en prenant surtout en compte le seuil entre l'enfance et l'âge adulte. Ils lui ont donné des objectifs pratiques et philosophiques et, en conséquence, l'ont orienté vers un effet sociopolitique. Je chercherai à montrer aujourd'hui que cet effet n'a pas été envisagé en termes de simple exécution d'un programme, mais par la prise en compte des principes essentiels. À ce propos, nous allons prendre à nouveau l'euhexia comme leitmotiv, le lieu où ce type d'enseignement est particulièrement visible. C'est le gymnase de la fin de l'époque classique et de l'époque hellénistique, et c'est de lui que nous allons parler maintenant. La cité grecque de Zestos, située au nord de l'Hellespont, se trouvait dans une situation difficile à la fin de la dynastie des Attalides, 133 avant Jésus-Christ, lors du soulèvement d'Aristonikos, qui lui a suivi, alors que l'installation de la domination romaine dans la région était retardée. En raison des raids fréquents des voisins thraces, qui n'étaient pas vraiment pacifiés, son existence même était de plus en plus menacée. De la même manière que l'Athénien Lycurgue, après la catastrophe de Chéronée, 338 avant Jésus-Christ, dans ces moments dramatiques, menace l'un des plus célèbres notables de Sestos, homme politique très important dans la cité, s'est tourné vers le renforcement et la réorganisation du gymnase. Lors de ses deux mandats de gymnasiarque, il prit soin des cultes et des offrandes, en particulier pour Hermès et Héraclès, deux dieux liés à, par excellence au gymnase. Il prit soin de l'amélioration de l'infrastructure, entre autres par la construction d'un bain, de son bon fonctionnement par l'approvisionnement en huile, ainsi que de l'intensification et l'élargissement des compétitions grâce aux prix offerts en récompense, surtout par la course, le lancer du javelot ou le tir à l'arc, à la fois pour les garçons,
Païdès que pour les adolescents, juniors, les effets-boys, les effets-boys, les effets et pour les jeunes adultes, néoï. Le moment choisi, l'anniversaire du roi, souligne irrémédiablement la signification politique de l'événement et l'adhérence à la dynastie, par ailleurs. En outre, l'offre éducationnelle, une païdéia, était soutenue aussi par des salaires généreux accordés aux conférenciers pour les akroaseis conférences. Au premier plan se situe dans ce cadre l'accent mis sur la discipline, l'exercice, l'application à la tâche et la virilité en soi. La eutaxia, ascésis, philoponia, euandria. Caractéristiques étaient désormais les concours réguliers avec des prix et des inscriptions honorifiques sous la forme de trois épreuves. Première, l'eutaxia, c'est-à-dire la discipline dans un sens militaire, plus exactement du mandat à l'origine, dans le sens d'ordre dans la ligne de bataille, la taxis. Deuxième, la philoponia, c'est-à-dire l'application à la tâche, l'engagement, la zèle, l'endurance, selon Philippe Gautier et Miltiades Hatzopoulos. Ce qui veut dire que les gens assument volontiers les efforts et les difficultés. Et troisième, ce qui nous est familier, l'eoexia, le bon état, la bonne tenue, l'attitude digne, un concept qui a été traduit par présence, constitution, condition, c'est-à-dire la prestance. C'est une traduction de Louis Robert. Il s'agit plus précisément de montrer nettement de l'extérieur et à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, une bonne condition physique. Dans les cercles bourgeois de l'Allemagne, on utilisait jusqu'à récemment toujours le terme français de contenance. Du même souffle que ces trois concepts centraux est prononcé ensuite le discours sur l'euandria qui avait été promu par ces trois concepts. La direction et l'objectif final essentiel ressortent de la longue inscription honorifique pour Menas, Inschrift von Sestos, numéro 1, à laquelle nous devons toutes ces informations importantes. En tout cas, clair et sans équivoque. Ce qui transparaît, c'est que derrière l'entraînement physique, on avait fixé au gymnase une orientation psychique et morale dans le sens des normes sociales qui exigeaient un engagement particulier, surtout dans la situation présente. Littéralement, après l'évocation de menaces externes et de l'activité de menaces en tant que gymnasiarque, on lit, je cite, « Par son zèle si grand, son philodoxia menas, engageait les jeunes gens, le néoï, à l'exercice et à l'endurance, l'ascésis, philoponia, par lesquelles les âmes des jeunes gens, rivalisant de courage, Andrea, sont éduquées à l'excellence, arrêtées des mœurs, des étés. » De toute évidence, il y avait à Sestos, surtout pendant le deuxième mandat de gymnasiarque de Menas, une situation de crise. Mais le style de l'inscription honorifique montre que dans plusieurs cas, ce ne sont pas seulement des mesures extraordinaires, mais aussi des pratiques usuelles, voire traditionnelles, qui ont été ici intensifiées, réorganisées et revitalisées. Par ailleurs, sur un point essentiel, c'est-à-dire quand il est question des compétitions subventionnées au sujet de la discipline, de l'endurance et de la prestance, il est souligné, expressis verbis, que par cela, la promotion de l'eoandria, selon la loi, kata ton nomon, fut couronnée de succès. Les pratiques en question étaient donc une partie de l'ordre légal de la cité-État, de la police, ce qui ne fait que renforcer la portée générale et avec elle la relevance de notre exemple. Ce n'est pas du tout une exception. Nous avons au moins un parallèle très proche sous la forme d'une loi. Celle-ci vient de la cité macédoine de Beroia et est un peu plus ancienne que l'inscription non honorifique pour Ménas. Philippe Gauthier et Miltiadis Hatzopoulos l'ont magistralement mise en évidence dans leur édition commentée, une référence dans l'exploration du gymnase antique. Dans cette loi, il est disposé que le gymnasiarque de la cité devait organiser dans le dernier mois de son mandat annuel, donc dans le mois Hyperberetaios, autour de septembre, une fête en l'honneur d'Hermès, dieu du gymnase. À cette occasion, on devait organiser des compétitions pour des hommes de moins de 30 ans, ceux que l'on nomme par ailleurs Néoï, qui mettent en valeur l'Euexia, l'Eutaxia et la Philoponia, autrement dit, les mêmes qualités mises à l'épreuve que celles-ci que celle qui était importante à Zestos. Les trois juges pour l'épreuve dans l'Euexia devaient être tirés au sort par le gymnasiarque d'un cercle de sept hommes du lieu, c'est-à-dire du gymnase. Ceux qui étaient désignés par le sort se devaient de jurer sur Hermès, citation, avec justice, lequel lui paraît avoir la plus belle attitude corporelle. Aristo tazoma diakeistae. Pour l'Eutaxia et la Philoponia, le gymnasiarque devait désigner lui-même, après un sermon auprès d'Hermès, celui, citation, qui lui paraît être le plus discipliné, oitactotatos, des moins de 30 ans, et pour l'endurance, celui qui lui paraît s'être loin, s'être entraîné, ça veut dire, à l'Eiftai, pendant la présente année, en se donnant le plus de peine. Les deux exemples sont suffisamment parlants, mais ne sont que la pointe d'un iceberg, dont nous ne pouvons que deviner les dimensions en raison de l'état fragmentaire de notre documentation. Or, ces dimensions semblent assez impressionnantes. À côté d'Eutaxia et de Philoponia, souvent mises en relation, l'Euexia, que l'on a déjà mentionné à plusieurs reprises, avait une importance particulière. L'importance de ces catégories apparaît clairement aussi dans le fait qu'à Pergame, en Asie mineure, le transfert du gymnase des enfants de Paides à celui des Éphèbes était fait suivant les critères d'Oitactos, Philoponos et Oiectes. L'esprit de cette orientation correspond très précisément chez Xénophon à l'éloge de l'Euexia qui peut être obtenu par les exercices du corps. C'est une nouvelle expression des principes que nous avons énoncés. Un autre fait significatif est que l'institutionnalisation du gymnase, réalisée surtout à l'époque hellénistique, consiste dans la création et dans la structuration de la fonction du gymnasiarque, et que les titulaires du mandat, les exemples de Zestos et de Beroia sont à ce titre particulièrement instructifs, étaient en particulier responsable des domaines des compétitions et avec celles-ci des qualités mentionnées jusqu'aux aspects concrets des épreuves. C'est précisément ici qu'apparaît l'importance de ces qualités pour la cité et pour la socialisation des jeunes hommes. En ce sens, le gymnasiarque était un, je cite Christophe Schuller, un modèle pour les éphèbes et les néoï qu'il formait pour leur rôle futur de citoyens de la cité. Il faut surtout ne pas oublier que ce type d'exercice et d'entraînement était en règle générale accompagné d'une offre de formation intellectuelle, en lien avec laquelle nous avons vu l'exemple des acroaseis des conférences de Ménas. Aptitude pour l'ordre et discipline. Réjouissance dans l'exercice, dans l'entraînement, le don de soi et les luttes. Une bonne condition physique comme base d'une bonne tenue et d'une apparence décente. Ces trois qualités étaient particulièrement appréciées par la communauté civique et étaient contrôlées par ses représentants. Le fait que ces qualités étaient constamment entraînées, présentées et évaluées dans le cadre des compétitions et qu'elles caractérisaient aussi toutes les autres disciplines sportives dans une société extrêmement orientée vers la compétition, représentait une incitation particulière et soulignait le sérieux avec lequel elles étaient envisagées. C'est ainsi que la recherche de ces qualités et d'autres similaires façonnait les niveaux essentiels de la socialisation masculine, même au-delà de l'adolescence. Des païdes qui avaient en règle générale moins de 18 ans, aux éphèbes qui étaient des adolescents au seuil de l'âge adulte, avec un âge compris entre 18 et 20 ans, et jusqu'aux ainsi dits néoï, les jeunes gens entre 20 et 30 ans. Et ainsi, les hommes nés pendant différentes années se retrouvaient ensemble les uns avec les autres, tout en avançant par groupe d'âge, et étaient donc toujours liés par d'entraînement en commun et la concurrence énergique dans un enchevêtrement spécifique de formation individuelle et collective. Ce n'est sûrement pas un hasard si l'esprit à l'œuvre dans ces institutions et pratiques rappelle les idées que j'ai traitées dans les deux premières conférences. Il s'agit en premier lieu de l'articulation entre la formation physique et l'instruction mentale, et en deuxième et dernier lieu de l'engagement pour la société, de l'intégration même dans la société, basée sur la bonne tenue, répétée à différentes reprises. Elle se manifeste littéralement et visiblement comme euoexia. Or, sa face intérieure peut être très bien décrite par le concept d'éthos, ou mieux encore par le pluriel été, caractère, comme dans l'inscription de Ménas, en conséquence comme une attitude acquise et renforcée continuellement par la pratique habituelle, qui s'appuie précisément sur cette articulation de l'entraînement, de la bonne tenue et de l'ajustement, et qui façonne le caractère d'une personne, selon les idées et les concepts des Grecs. Par ailleurs, la question hautement débattue de savoir si l'éducation dans le gymnase était plutôt intellectuelle que corporelle, si sa nature était plutôt athlético-sportive ou militaire, doit être relativisée. Il s'agissait avant tout d'un ajustement et d'une préparation intérieure, mentale et donc spirituelle, qui supposait cependant aussi un entraînement physique sous forme variée et qui s'exprimait dans une attitude corporelle, donc qui pouvait être évaluée de manière concrète. Des exercices particuliers comme le tir à l'arc pouvaient être exécutés à des occasions spécifiques, mais cela n'avait pas de valeur décisive, comme le montre surtout l'importance des trois qualités dont il a été question. De manière générale, l'entraînement, comme le disait le dicton connu de Jacob Burckhardt sur l'histoire une fois modifiée, ne devait pas rendre les jeunes gens efficaces dans des épreuves particulières, furent-elles athlétiques ou militaires, mais devait les engager pour toujours en tant que bons citoyens. En ce sens, il est très significatif que les sculpteurs ont utilisé la figure du citoyen, une représentation de l'habitus civique pour désigner un athlète qui est dans ce cas seulement identifié par les instruments utilisés pour pratiquer la gymnastique. On voit ici le pose traditionnel d'un athlète
avec son esclave, son païs, qui a une vase pour l'huile.
Et on voit ici la pose de rhéteur, de politicien, de citoyen, Échine d'Athènes, du IVe siècle, et une statue honorifique de Gymnase d'Érétrie. C'est un hommage à Denis Knöffler, qui est dans la même pose que le citoyen, le jeune homme comme citoyen dans le gymnase, trouvé dans le gymnase d'Érétrie et avec des utiles, des attributs sportifs, la strigilis et des vases. Seulement ce petit détail est une indication pour le sport. La chose la plus importante est le citoyen, l'habitus des citoyens, l'eorexia du citoyen. Je dois ces observations à Ralph von den Hoff, mon ami et collègue de Freiburg. Nous ne pouvons pas traiter ici en détail jusqu'à quel point ce phénomène s'est manifesté de manière spécifique ou généralisée depuis l'époque hellénistique, jusque tardivement pendant l'époque impériale. À la suite des remarques et des suggestions faites jusqu'ici, il convient seulement de rappeler que l'institutionnalisation et la monumentalisation du gymnase apparaît comme une caractéristique de l'hellénisme, de l'époque hellénistique. Cela inclut aussi l'organisation de l'éphébie, connue surtout à Athènes et dont la réorganisation par Lycurgue montre une orientation vers l'engagement pour la cité d'Athènes, particulièrement nécessaire dans le contexte de la désastreuse défaite de Chéronée et de la domination macédonienne perçue par les Athéniens comme oppression et asservissement. Je me réjouis de faire ici référence à l'important travail de recherche d'Andrei Jankowski, dont les résultats viennent à la rencontre de mes observations. Entre autres, il faut remarquer les nombreuses informations sur l'organisation et la formation des hommes, surtout des jeunes, selon les classes d'âge. Il est clair qu'il y avait ici un intérêt vital de la cité, parce qu'elle devait à la fois anticiper en permanence les conflits armés et que la forme endémique de la guerre civile en Grèce, la stasis, ne s'est laissé éradiquer complètement et définitivement. Ainsi, l'unité à l'intérieur, l'homonoïa, revêtait une importance fondamentale comme base essentielle de l'affirmation du corps civique à l'extérieur de la cité. C'est dans ce contexte qu'il faut envisager la question de la portée sociale de l'éducation gymnastique. Comme nous disposons essentiellement des textes normatifs sur la question, nous n'avons aucune information empirique fiable de l'orientation des textes concernant les communautés des citoyens libres et des besoins mentionnés ici auparavant. Il résulte, à mon avis au moins, que l'objectif visait un cercle plus large et que l'on cherchait, par exemple par des mesures évergétiques, à offrir réellement les possibilités pour une activité gymnastique pour tous les citoyens. Il ne s'agit pas d'une éducation supérieure. Dans ce contexte, le fait que cette forme d'éducation gymnastique fut perçue comme spécifiquement grecque, voire même comme marque de l'identité hellénique, revêt dans nul doute une importance particulière. De manière significative, cela apparaît clairement dans une œuvre de Lucien, le dialogue Anacharsis, c'est-à-dire à une époque, le IIe siècle après Jésus-Christ, quand on ne considère plus que la cité grecque était effectivement à son apogée. C'est peut-être son champ de cygne. Mais faisons attention et notons que l'anacasiste Lucien résume exactement tout ce que nous avons dit sur l'importance de l'éducation et ce que l'on peut rassembler sous la formule allitérante polis et paideia. Il nous apparaît clairement que les contemporains eux-mêmes ont perçu comme une particularité du mode de vie à la grecque l'utilité des exercices physiques de gymnastique, quand nous voyons mise en scène dans ce dialogue, à côté de Solon, le sage cite Anacharsis. Celui-ci était bien sûr un étranger fictif ou plus précisément une projection du discours grec tiraillé entre identité et exotisme, une figure dans laquelle on pouvait jouer avec ce qui fait le barbare et dans lequel on pouvait aussi, pour une fois, imaginer une sagesse étrangère, analogue à l'image du bon sauvage, un miroir du miroir, pour filer la métaphore de François Hartog. Lucien utilise cette tradition pour mettre en scène devant nos yeux un débat sur le sens et de l'utilité du sport et donc des gymnasia. Le débat a lieu entre le sage grec Solon et le cite qui se montre comme un visiteur du gymnase, étonné au plus haut point devant les curiosités qu'il voit, comme si c'était de la folie. Il parle littéralement de mania. Ils sont fous, ces Grecs. Le regard de l'extérieur, construit ici, est brisé par une double ironie. L'étranger n'est qu'une figure imaginaire et, à beaucoup d'égards, par rapport à la tradition susmentionnée, une figure idéalisée, comme d'ailleurs l'est aussi le personnage de Solon dans le dialogue. Il s'étonne des bizarreries des sports grecs qui lui sont totalement étrangers et met en question leur utilité pour la guerre. D'autre part, il est lui-même ironisé en tant qu'étranger. Il est donc clair que la gymnastique est ici présentée comme une particularité spécifique à la culture grecque, profondément ancrée en tant que telle dans la tradition grecque et clairement réglementée par le droit, comme le laisse entendre le personnage de Solon, le loi. Comme tout ce qui est essentiel chez les Grecs, le sport est l'objet spécifique d'un discours littéraire intellectuel où l'expression élégante du sophiste brillant à toute sa place. Ce discours concerne l'utilité de l'activité du gymnase pour la cité et donc la question du rôle social de la formation physique qui nous intéresse ici. Dans l'Anacharsis de Lucien, ce discours a d'emblée une orientation particulière pour exprimer dans le dialogue même une position claire, une conception, une idée directive, une norme, une cible, pour ainsi dire. On peut la résumer comme suit. La cité, la forme d'organisation politique et sociale par excellence, comme elle a été vue et pensée auparavant, repose essentiellement sur les citoyens et existe en même temps par ses citoyens. Ce sont eux qui forment la polis et leur qualité est cruciale pour le bien-être de la communauté. Surtout les meilleurs citoyens, les aristoi politai, sont déterminants pour la meilleure forme de gouvernement. Pour cette excellence, la gymnastique, c'est-à-dire ce que l'on fait dans le gymnase, l'entraînement, la compétition du gymnase, dans le mot gymnastique, j'ai résumé tous les différents aspects. Dans ce sens, la gymnastique est essentielle. C'est vrai sur le plan général, aussi bien pour ce qui concerne le corps que pour ce qui concerne l'esprit. C'est d'emblée évident que les deux forment une liaison inhérente et intime comme l'existence même de la cité. Du point de vue physique, l'activité du gymnase favorise la santé et l'esthétique du corps aussi bien en substance que dans la forme, en apparence. C'est ce qui garantit une meilleure santé. L'expérience riche de l'entraînement physique et de la compétition, de même que la force qui en résulte, ont un effet positif sur l'âme. Elle favorise la confiance en soi, le courage, tollement, et surtout l'ambition, philotimien, et le désir de victoire, spoudé alectos, hypertes nikes. Les qualités acquises ainsi ont un impact positif sur le plan politique pour la cité. En temps de paix, elle détourne des mauvaises directions et des objectifs contestables, à savoir d'un comportement arrogant et téméraire de la hubris, résultat de l'inactivité des argas et des efforts pour ce qui n'est pas convenable. Philotimia vers la Escira. On pense à l'autades, à l'arrogance chez Polybe. Autrement dit, pour parler dans nos termes d'aujourd'hui, elles agissent sur les normes sociales, contre les attitudes et les comportements antisociaux. Orientée dans un sens positif, cette gymnastique promeut, avec les qualités acquises, l'esprit communautaire, le zum politoiestai, dans un sens spécial. Précisément parce que les participants se sentent connectés dans un agone commun qui garantit la liberté et la prospérité. La gymnastique est extrêmement importante pour le rapport avec l'extérieur, c'est-à-dire dans le cas extrême d'une situation de guerre. Tout d'abord, elle agit comme un moyen de dissuasion pour les voisins en raison de l'impression de supériorité perceptible de l'extérieur. Et surtout, elle offre une garantie d'intégrité, de liberté et de prospérité de la cité contre les ennemis potentiels et réels. Pour cela, et concrètement, dans le combat même, les capacités d'endurance et d'habileté cultivées grâce au sport sont décisives. Le lien entre endurance et élégance, entre substance et forme, entre corps et esprit s'exprime avant tout dans une esthétique particulière. Il lui correspond, toujours dans l'anacharsis, le concept de deuexia. Ici, ce concept se réfère généralement au bien-être physique. Les individus bien entraînés ont une apparence radieuse et virile. Ils sont arénopoi. Ils ne sont ni trop épais, ni trop minces, mais ont une forme équilibrée, un zimétron. S'ils se présentent nus, ils n'ont pas à avoir honte. L'euexia donne donc à la fois une bonne constitution et une bonne image. Cette constitution ne doit pas être comprise seulement en sens physique. L'euexia rend sensible, selon Lucien, dans l'apparence extérieure, l'articulation psychosomatique cruciale entre l'entraînement du corps et l'exercice mental. Je cite, « Nos jeunes gens, colorés et brunis par le soleil, ont un air mâle et plein de vie, un psychon qui annonce l'ardeur et le courage, le thermon et l'androdès. » Fin de la citation. Comme dans l'idéal classique de la kalokagatia, l'extérieur corporel et l'intérieur spirituel, mental s'articule ici dans un mélange remarquable du physique et du mental. Il ne faut pas oublier que dans la perspective d'une éducation visant à la fois le corps et l'esprit, ce gaufrage gymnastique s'accompagnait d'une éducation musicale et intellectuelle qui devait être intégrée avant toute autre chose et qu'à cet égard, la mimésis jouait un rôle important aussi dans le dialogue de Lucien. Mais le principe de base de cette éducation était l'articulation et la cohésion du corporel et du spirituel. En conséquence, au début, il y avait l'entraînement du corps avec ses circonstances et ses effets psychiques et mentaux dont on était bien conscient. Si l'on prend en considération le rapport entre activité au gymnase et activité politique, on constate que chez Lucien, et on peut avoir la certitude qu'il y a là une particularité de la culture grecque, voire de la grécité, il y a une conscience clairement développée et ordonnée du rapport entre entraînement physique au gymnase et organisation politico-sociale, c'est-à-dire d'un lien entre gymnase et cité, gymnastique et sens civique. Les citoyens se construisent par des pratiques gymnastiques. Pour Lucien, il s'agissait d'un programme clair. Du moins, il rend compte de l'existence d'une telle idée. La conformité est très proche avec les thèses concernant la signification de l'instruction physique pour la vie sociale et donc pour la cité, que Xénophon, par exemple, met dans la bouche de Socrate dans ses mémorables, renvoie à une longue tradition dont nous avons déjà parlé. Mais n'est-ce pas un anachronisme au deuxième siècle après Jésus-Christ, à une époque où la domination romaine est incontestée, sous la protection de l'Imperium Romanum, de prendre en compte l'armée, la guerre à laquelle l'anacharsis accorde une valeur si importante? S'agit-il ici d'autre chose que d'un regard rétrospectif, nostalgique de la seconde sophistique sur la grandeur ancienne d'un passé figé comme classique? N'est-ce pas simplement qu'on pourrait l'indiquer la figure de Solon, une évocation de la cité de la bonne vieille époque dans une perspective romantique un peu ironisée. À mon avis, on ne devrait pas être aussi sceptique. À part le fait que la seconde sophistique, comme le montre le progrès de la recherche la concernante, ne peut guère être qualifiée de romantique, les discussions continues sur le thème des activités du gymnase montrent qu'il s'agissait d'un discours vivant à l'intérieur du monde grec. À côté de l'anacharsis, on peut citer dans ce cadre l'œuvre de Philostrate sur la gymnastique, le gymnastikos, qui dresse des points avec la médecine, ou plus exactement avec les aspects médicaux de l'activité au gymnase. La question de la véritable signification et de la portée sociale du gymnase à la fin de la période hellénistique et à l'époque romaine est certainement liée. Mais je ne peux l'aborder de plus près dans ce cadre. Sur ce point, comme souvent quand il s'agit de la Grèce, on doit s'attendre à des différences régionales. Il y a peut-être eu tendance à une aristocratisation. Lucien, du moins, met en avant les aristoi politai. Mais elle est apparue progressivement avant de s'affirmer sous l'Empire romain. Les importantes observations prosopographiques d'Éric Perrin-Saminarayar montrent de telles tendances à Athènes déjà après 229 avant Jésus-Christ. Mais ce, je cite Perrin-Saminarayar, ce centre universitaire et artistique préféré de l'élite méditerranéenne était bien sûr une exception. En principe, au début et pendant la haute époque hellénistique, l'idée fondamentale de la socialisation reste déterminante pour la cité et pour ses citoyens. Dans ce cadre, il n'y avait pas l'idée d'une éducation distincte, exclusivement réservée aux élites à l'intérieur du cercle des citoyens. Les élites étaient et sont toujours restées une partie du corps civique. Au premier plan, reste la question de la formation de ceux qu'on y élève, ainsi que la signification de l'éducation psychosomatique ou encore mieux somatopsychique que nous avons traité ici. Ainsi, les citoyens de la police et ses responsables ont cherché à préserver sa consistance intérieure contre les forces de la stasis, tout en utilisant leur énergie en leur faveur. Un effort considérable était demandé pour la socialisation. Pour cela, les citoyens devaient être correctement formés. L'éducation structurée y répondait. Comme nous l'avons vu, il ne s'agissait pas de discipline rigide et d'endurcissement à côté de la force. Il y a toujours eu de l'élégance. À côté de la marche, la danse. À côté du sport, la musique. On pense à l'accent mis dans les nomoi, les lois de Platon, sur la, je cite, « bonne tenue, l'élégance légère et la beauté ». Il est important de ne pas percevoir ces formes d'éducation comme une simple contrainte. Elles n'auraient pas été couronnées de succès à long terme. L'attractivité devait être suffisante et s'y ajoutaient d'autres motivations et incitations, incentives, dirions-nous aujourd'hui avec un mot anglais, au moins en Allemagne. Les compétitions avec leurs prix et récompenses, la reconnaissance, en bref, le capital social que l'on pouvait recueillir avec la philoponia, l'éotaxia et l'éoaxia. Il y a toujours eu suffisamment d'enthousiasme dans le jeu. Enthousiasme qui est important, comme le montre d'ailleurs aussi l'état actuel de la recherche neuropsychologique et neurobiologique pour la formation du cerveau et sur l'apprentissage. Je dis, il y a toujours suffisamment d'enthousiasme pour qu'il contribue de manière significative, pour parler avec les mots de Démocrite, le mot de Démocrite, au physiopoïen, pour créer de la nature. Dans le cerveau a entendu comme part du corps, mais aussi la base pour la formation psychique, mentale. C'est principalement un précédent, je pense, de ce que Pierre Bourdieu surprend dans la tradition phénoménologique de la corporéité et de ce que Detmund Husserl et Maurice Merleau-Ponty désignent par l'accoutumance, l'habitualisation, pour ainsi dire. Dans la cité grecque, le sens pratique, pour utiliser le concept de Pierre Bourdieu, inscrit dans les corps, était à la fois celui qui dirigeait la société et qui était façonné et confirmé par elle. Nous pouvons voir que cela était fait d'une manière très spécifique et que les Grecs étaient, de leur côté, pleinement conscients de ces interdépendances. Ils y étaient particulièrement engagés. Le fait qu'ils ont tant œuvré de manière continue pour l'éducation systématique, on pense aux honneurs des gymnasiarques, qu'ils ont loué ces avantages à répétition et qu'ils ont aussi fait l'objet des louanges, montre que les cités n'étaient pas capables de désamorcer définitivement ces explosifs intérieurs, inwendigen Explosivstoff, comme disait Nietzsche. Mais il est aussi clair, après tant de siècles et de recherches continuelles, que la police est restée, malgré tous ses problèmes, stable pendant très longtemps, beaucoup plus longtemps que d'autres formes d'organisation politique, peut-être aussi l'incidie État moderne. La vitalité des discours et des pratiques montre la persistance de ces thèmes et tout cela exprime la virulence et la force de ce système. grâce à l'expérience de la tradition, à l'observation précise et à la réflexion profonde, on a pu comprendre les liens physico-mentaux, psychosomatiques que nous pouvons aujourd'hui connaître et continuer à explorer grâce à des résultats significatifs, surtout dans le domaine des neurosciences, au sujet de la neuroplasticité dépendante de l'expérience, en particulier sur l'interdépendance du mouvement, du sens, des émotions et de la pensée. Nous arrivons ainsi au point que je voudrais aborder lors de la dernière leçon. Je voudrais dresser un pont entre les anciens Grecs et nous-mêmes. Dans ce contexte, on peut se référer à la recherche actuelle en neurosciences, à laquelle j'ai déjà fait allusion, et par exemple en mentionnant les recherches qui démontrent l'influence positive que la musique et la danse peuvent avoir sur la socialisation des jeunes à comportement difficile et provenant des milieux défavorisés. Mais à ce sujet, je voudrais plutôt tracer les grandes lignes de la tradition européenne de la paideia, de la formation, et accorder plus d'attention aux aspects spirituels et intellectuels après avoir jusqu'ici clairement insisté sur le corporel. Merci pour votre patience.